Merci Diane Baudard, merci Victor Stoïkitsa de l'invitation que vous me faites d'intervenir dans un colloque déjà très riche. Je commence. 1839, le journal hebdomadaire L'Artiste fidélisait ses lecteurs en leur offrant en prime une lithographie originale de Aimé de Lémude. Le sujet, l'enfance de Jacques Callot, illustre graveur français, et son prétendu départ avec une troupe de bohémiens de sa Lorraine natale vers l'Italie des promesses. Le spectateur contemporain aurait tort de ne pas jeter un regard indulgent sur cette image et de ne pas considérer le romantisme mièvre d'un artiste qui fut appelé, non sans malice, le Paul Delaroche de la lithographie. Travaillé en demi-teinte doucement charbonnée, pour citer les frères de Goncourt, l'image accumule les contrastes symboliques, noble et ignoble, pur et impur, le même et l'autre. Quelques structures d'appel méritent attention. Au-delà de la perspective serrée du chemin, au-delà de l'entassement des personnages dans un espace restrictif, de la composition, le fouet intempestif du bohémien perché sur sa charrette déclenche le déferlement d'une image que ni les pas, ni le trot, ni encore moins la cadence des arbres peuvent rythmer. Un passé qui arrive. Ce fouet comme clap du début d'une histoire, dans l'histoire, d'une immixtion de la story into history, semble donner libre cours à tous les fantasmes, érotiques y compris. Admirons seulement l'épaule dénudée, la rondeur du sein, le teint cuivré de la belle bohémienne qui, d'un œil blanc, aguiche notre artiste. Mi-enfant, mi-adolescent, le jeune Callot est déjà Callot. Il tient un calepin en signe de sa précoce destinée. Le voici, au milieu des bohémiens, déjà séduit par un sujet qui lui est compté et compté sous les doigts de la main. Un Callot imberbe et propre, un Callot gaggio. Lorrain comme Callot, graveur et noble comme lui, le Mude, avait ses raisons d'accepter une commande et aborder un sujet avec lequel il s'identifiait en quelque sorte. Divers autres liens expliquent la publication de cette lithographie, comme par exemple l'article sur la vie de Callot publié par Léon Gozlan dans le même journal, la même année. L'intéressant recours à l'histoire opéré par le Mude semble reposer essentiellement sur une mémoire scripturale, une mémoire livresque. Selon Gozlan, l'histoire de Callot s'écrit toujours au passé simple. De quel étonnement le futur peintre de Gueux ne dut-il pas être saisi à la vue de ces êtres si misérablement et si grotesquement accoutrés ? Façon de dire, la jeunesse du graveur est de prédire la bonne aventure de celui qui allait devenir le Jacques Callot tel qu'on le connaît aujourd'hui. Selon d'autres journalistes et critiques d'art, l'histoire de Callot s'écrit au conditionnel. Il ne serait pas impossible, avec un peu plus de bonne volonté, de retrouver le jeune Callot lui-même dans les quatre planches. Regardez la planche du festin, ce petit bonhomme aux cheveux blonds, qu'est-ce qu'il en sait, perché sur l'arbre du centre, il m'a toujours semblé y reconnaître Callot. Ou alors, je cite un autre critique, « Peut-être est-ce toi, maître, qui porte bombin résigné la marmite qui te coiffe si élégamment ?» C'est que, en feuilletant l'œuvre de Callot, on retrouve à toutes les pages la trace de ses souvenirs. Son esprit garde toujours le moule de ces types si nettement accusés qui avaient posé devant lui à cet âge où les impressions sont le plus vivement reçues. L'historiographie de Callot au XIXe siècle, celle qui délibérément confond vie et œuvre, celle qui figure et préfigure, n'est qu'une suite vertigineuse de mise en abîme. Les impressions de Callot, se comprendre par là à la fois ses souvenirs et ses estampes, sont avant tout des impressions dans sa propre chair. Les bohémiens ne sont pas seulement les vecteurs de la création de Callot, ne sont pas qu'une émanation de son esprit, ils sont, sont surtout l'incarnation d'une œuvre dans laquelle Callot même est disséminé. C'est ainsi que s'accomplit le fantasme de tout un siècle, celui de vivre non pas dans le passé, mais bel et bien avec le passé, désir de tactilité auquel fait sans doute inconsciemment référence le Mude lorsqu'il imagine Callot main en main avec la belle bohémienne. C'est cette prise en prise que je me propose d'aborder dans les minutes qui suivent. La tâche, je l'avoue, est aussi amusante que malaisée. Deux types d'incommodités viennent éprouver le chercheur. La première réside dans la disproportion entre la générosité des textes qui forge le mythe de Callot et la parcimonie des illustrations qui le confirment. Depuis André Félibien au XVIIe siècle, Pierre-Jean Mariette et Claude Robert Husson au XVIIIe siècle, Bourgoin d'Orly, Élise Voyard et Desmarais au XIXe, sans oublier les Fantasiestücke in Callots Manier de Etta Hoffmann ou le Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand, bien entendu aussi le premier catalogue raisonné de l'œuvre de Callot publié en 1860 par Edward Mumm, la profusion des textes est intimidante. Elle donne la mesure d'un pouvoir imaginatif, d'un historicisme essentiellement visuel qui, paradoxalement, ne sera pas traduit avec la même intensité par les beaux-arts. De ce côté, un relatif silence répond à la logorrhée du XIXe siècle. Il faut s'armer alors d'une grande patience, lire attentivement les monographies, parcourir scrupuleusement les ventes des maisons enchères, fouiller dans les collections des musées à la recherche des tableaux d'un goût douteux, oublié, poussiéreux ou irrémédiablement perdu. En guise de liste non exhaustive, Alexandre Victor Fontaine expose un tableau sur ce sujet en 1844, suivi une année plus tard par Hugues Martin, Faustin Besson autour de 1860, Louis Eugène autour de 1867, pour ne pas oublier les artistes hollandais et belges qui, depuis 1849 à 1874, exposent des tableaux sur ce sujet. La deuxième incommodité du chercheur est la médiocrité de ses œuvres. De cette maigre fortune critique, arrêtons-nous néanmoins sur deux tableaux, dont voici le premier. La composition gracieuse de Josef van Zeverdonck, aux figures trop délicatement modelées pour reproduire la tribu maudite, je cite un compte-rendu du salon, pêche par excès de zèle. Comment expliquer ici la gracilité des figures et la candeur des visages, alors que les tziganes sont là pour citer Théophile Gautier, bien autrement aves, dépénaillées et farouches à voir avec leurs yeux d'oiseaux de proie, leurs profils busqués et leurs sourcils charbonnés et leurs teintes de cuir de cordoue. Il semblerait que Zeverdonck ne soit pas trompé de Callot mais de tzigane. Le métissage des races, et je vous prie de prendre ce mot cum grano salis, se produit non seulement dans le pelage des animaux, mais aussi dans celui des genres picturaux. Nous sommes au carrefour de la peinture de genre, historique et religieuse. Cette halte de bohémiens a tous les ingrédients d'une fuite en Égypte, d'une sainte famille dans laquelle une deuxième bohémienne joue le rôle improbable d'une sainte Anne ou sainte Élisabeth, tandis que Callot endosse le rôle d'un saint Luc précoce. Conscient sans doute des légendes qui circulent à leur propos, Zeverdonck illustre les bohémiens en tant que gitans, ou en tant qu'égyptiens, comme on les appelait encore au XVIIe siècle. Adoucis par le soleil, innocentés par la maternité, les tziganes le sont aussi par cette curiosité envers l'art. Dans un article pionnier dédié aux vies des artistes telles qu'elles étaient illustrées au XIXe siècle, Francis Haskell soulignait la grande attention que les critiques de l'époque accordaient aux enfances des artistes. In malo, l'enfance de Callot est ici le signe inquiétant d'une débilisation. L'artiste ne fait que reproduire ce qu'il voit. Grand topos sous le pouvoir mimétique de l'art, ce qui explique sans doute la présence du singe qui fouille dans les œuvres du graveur. C'est un symbole animalier qui pourrait très bien se retourner contre l'éclectisme de Zevertonk lui-même. In Buono, insiste Haskell, ses enfances marquent l'idée d'un œil innocent comme explication du génie. C'est, je cite, « l'enfance retrouvée à volonté, l'enfance douée maintenant pour s'exprimer » dont parle Baudelaire. A priori et a posteriori, c'est la naissance en chemin de l'artiste prédestiné, comme l'affirme Thierry Loger. Dans le registre des œuvres mineures sur le mineur Callot, mentionnons encore le tableau de Debac, ethnographiquement plus scrupuleux quant au métier des bohémiens, jongleurs, diseurs de bonne aventure ou paresseux sur le soleil du midi. Debac comprime les typologies existantes d'au moins deux scènes du cycle des bohémiens gravées par Callot. Ces citations n'impressionnent guère les critiques des salons. Arsène Housset, par exemple, balaye le tableau d'un revers de plume tout en proposant à sa place, non pas sans délectation, un tableau qui reste à faire, le sien. Callot y est surpris en train de dessiner deux bohémiennes dansantes dans toute la splendeur de leur séduction. L'envoûtement du passé est total. Le soleil doré qui baigne la scène aux paillettes scintillantes des bohémiennes, l'histoire et le tableau de Housset sont kaléidoscopiques. Le désir de tactilité culmine avec un cou penché sur les lèvres un peu surprises de Callot. En guise de signature, Housset s'exclame « Voilà mon tableau, mais je n'ai qu'un encrier pour palette et une plume pour pinceau. » Le critique s'emporte ainsi dans la fiction en faisant certes de l'ekphrasis, mais de l'ekphrasis vivant. Ce type de texte nous amène à questionner implicitement la médialité du mythe. Le récit coloré de Housset, les doux mensonges de Zevertonk et de Bach sublime le monde gravé de Callot, monde essentiellement monochrome. La variation des techniques, la combinaison des citations, le changement de perspective confèrent à ce mythe un air de vraisemblance suffisante. Le chercheur ne peut pas se contenter du « cela va de soi » sans envisager ici la mise en récit, autrement dit le « emplotment », notion forgée par Paul Ricoeur dans « Temps et récit » et par Hayden White dans « Meta-History », à savoir l'œuvre historique comme, je cite, « structure verbale sous la forme d'un récit en prose ». Il ne peut pas concevoir l'écriture et la peinture d'histoire autrement qu'une opération essentiellement créative, une hiérarchie signifiante des séquences narratives dans lesquelles il est toujours question d'un choix des arguments. Le récit historique est un acte poétique. Envisager le mythe de l'enfance de Callot sous les auspices de la narratologie ouvre alors toutes les possibilités méthodologiques. Peut-on ignorer, par exemple, qu'en même temps que se forge visuellement le mythe de l'enfance de Callot, plusieurs autres artistes font leur entrée dans la littérature enfantine. Chez Eugénie Foa, par exemple, l'enfance de Callot est une histoire de cap et d'épée aux allures moralisantes. Le départ de Callot avec les Tziganes est vécu comme un rapt, ravivant par là, aux petits comme aux grands lecteurs, la peur collective de l'enfant volé en tant que topos à la fois littéraire et anthropologique. La grande crainte de l'homme du XIXe siècle est la souillure de sa race, forcément supérieure, la peur de métissage. Se faire enlever par les Tziganes revient à devenir bâtard, c'est perdre les repères, péricliter la perpétuité d'une forme de noblesse. Voler un enfant, c'est mettre en péril, c'est compromettre à jamais l'idée même de maison et ce qui l'a fait exister, la descendance. Le récit de Eugénie Foy et d'Arsène Housset semble se rencontrer à mi-chemin dans la biographie de Callot sur le terrain enchanteur de l'image. En même temps que Foy cherche à rendre mature la conscience enfantine, ou c'est cultiver consciemment chez le lecteur adulte un état d'infantilisme. Il le berçait en lui racontant une histoire puérile de l'art. Le biopic en tant que méthode à une vie coriace au XIXe siècle. L'enfance bâtarde de Callot ne trouve pas toujours sa juste place dans les compositions allégoriques de Dominique Ingres, de Paul de la Roche ou Nicaise de Caisser. S'il lui arrive d'intégrer tardivement le panthéon des maîtres anciens, c'est encore et toujours en tant qu'enfant parmi les Old Masters. Le Wunderkind est alors un Wunderkind, le prodigue un prodige. Condamné à une perpétuelle enfance, Callot intégrera la garderie de l'histoire, à côté de Giotto dessinant des moutons, Léonard et Paton Verrocchio, Lippi faisant les portraits des brigands ou Poussin dessinant sous les livres contre la vie de ses parents. Dans d'autres images, l'infantilisation est plus subtile. Le Plutarque français glose à sa manière sous la mémoire de Callot telle qu'elle a été figée par le célèbre portrait de l'artiste réalisé par Van Dyck et gravé par Worstermann, c'est un nom qui a été évoqué ce matin, un portrait dans lequel Callot se fait en même temps qu'il est fait. La présence au premier plan de son blason, l'enfance sur l'exercice de son métier de graveur, concourt à anoblir à la fois l'homme et l'œuvre. Le graveur du XIXe siècle prend du recul comme pour montrer une temporalité des œuvres réalisées, façon de montrer simultanément un corps et un corpus. Au pied de l'artiste gît un dessin jeté avec une négligence pleine de sens. Il me plaît de croire que ce dessin, s'il ne représente pas explicitement les bohémiens, il n'en fait pas moins allusion. Écrire ou dessiner l'histoire reviendrait donc au XIXe siècle à une forme de gribouillage. Formé à l'école de l'errance, Callot ne pouvait que barbouiller les tziganes qui l'ont fait et ceux qui lui ont montré la voie, ceux avec qui il est entré enfant dans l'histoire de l'art. En vérité, la tziganisation de Callot est l'œuvre d'un de ses premiers biographes. André Félibien a raconté dans ses entretiens que suite à son départ vers l'Italie de ses rêves, Callot se trouva aussitôt dans le besoin. Je cite, « Il s'associa avec une troupe de bohémiens qui allait aussi en Italie et sans penser dans quelle compagnie il se mettait, ni aux fatigues du chemin, ni à la vie honteuse qu'il menait, il alla avec eux jusqu'à Florence. » Félibien n'invente pas cet épisode uniquement comme une relation de cause à l'effet en contemplant le cycle des bohémiens gravé par Callot. Il s'appuie inconsciemment sur le cliché de l'enfant volé. Au XVIIe siècle, cette peur ancestrale est aussi induite culturellement. Rappelons-nous seulement la Gitanilla, la petite gitane, nouvelle exemplaire écrite par Miguel de Cervantes et aussitôt traduite en français. L'histoire de Preciosa, alias Doña Constanza de Acevedo, enlevée par les tziganes, aboutit à l'heureux dénouement. Elle est finalement reconnue par le corregidor comme étant de sang noble, grâce à une marque de beauté sur son teint de niebe et de marfil, de neige et de marbre. Je ne dénouerai pas ici le nœud baroque des antagonismes qui traversent ce récit fait de race et de classe, d'ipséité et d'altérité, de confusion et de conversion, d'inné et d'acquis, de nature et de culture. Je n'insisterai pas non plus sur les sources anciennes de Cervantes. Il s'agit sans doute de sa part d'une réécriture de l'Éthiopica d'Héliodore, ni sur la survivance de ce mythe dans la peinture néerlandaise ou lorraine, où l'on retrouve ce teint de neige au milieu de la noirceur tzigane. Il ne suffit pas de montrer pourquoi cette légende forgée par Félibien a eu un tel succès. Il importe surtout de vérifier si, par hasard, ce ne fut Callot lui-même qui entretint l'ambiguïté. Les quatre gravures dont je parlais tout autour de cette présentation, les quatre gravures du cycle Les Bohémiens, réalisées par Jacques Callot à son retour à Nancy, à partir de 1621, sont des images à la fois actives et passives. Passives en ce qu'elles sont figées en tant que type iconographique. C'est pour la première fois que les tziganes ont un droit de cité dans l'histoire de l'art en tant que sujet percé. Actives car le graveur accompagne de son burin la caravane des tziganes en une sorte de travelling. La présence physique du graveur est attestée par une voix off qui cadence les plaques. Elle semble réduire la distance entre le spectateur et la gravure à une affaire de nous et eux. Ce type de défilé renvoie stylistiquement au triomphe et au convoi de Landsknecht, tels qu'ils furent illustrés par les maîtres de la Renaissance allemande, Dürer, Burkmeier, Sebald, Behram, Erhard Schön. La veine belliqueuse des Tziganes, leur mercenariat avéré et documenté pendant la guerre de 30 ans, sollicite bien entendu l'attention des chercheurs. Je souhaiterais pour ma part insister ici plutôt sur un autre problème, anodin en apparence, celui de la mise en ordre des bohémiens, avec tous les poids du latin « ordo », rang, rangée, ligne, mais aussi classe sociale. Dans quel sens de lecture faut-il lire ces quatre plaques? S'agit-il d'une frise, d'une longue plaque coupée en quatre? Édouard Mom et Jules Lieur, grand spécialiste de Callot, en doutent, tout en laissant penser que le graveur lui-même envisageait certains détails de sa composition comme points de suture, tels les ombres portées sur le sol qui se prolongent d'une plaque à l'autre. Parfois, le cycle est exposé dans toute sa longueur, avec les images séparées. L'ordre établi par Mom, que j'ai respecté moi-même, oblige le lecteur de catalogue à feuilleter les images une après l'autre. Dans d'autres catalogues, les reproductions se lisent en boustrophédon. Selon certains critiques, Daniel Ternois par exemple, chaque composition est parfaite et se suffit à elle-même. Peter Bell et Dirk Sukow n'ont pas manqué de souligner la lecture difficile et l'agencement problématique de ces quatre images. Or, si l'historiographie est une affaire de narratologie, il faudrait interroger également ces gravures en tant qu'images mouvantes, dont il faut questionner la médialité. Sont-ils des feuilles détachées, manipulables, des œuvres reliées à feuilleter, des estampes épinglées, etc. On peut supposer que, malgré la voix off, ces quatre gravures ne connaissent ni début ni fin, encore moins un ordo établi, pour la simple raison, selon la conception des temps modernes, que le sujet même, à savoir les Tziganes, ne tolère pas une entrée dans le rang. Le chronotope de la route Tzigane est dilaté dans toutes sortes de détails insignifiants, mais signifiants. La volaille, objet de rapine Tzigane, volette d'une plaque à l'autre, en brouillant le sens de lecture et en abolissant les frontières de l'image. L'imaginaire tzigane de Callot ne repose pas uniquement sur une expérience et une observation directe. Il se réclame aussi d'un discours allégorique sur l'identité tzigane au XVIIe siècle. Pour illustrer la figure de la commedia, Cesare Ripa, auteur attentivement lu par Callot, vous savez, son propre exemplaire de l'iconologie, recourt précisément à Una donna in abito di zingara, des couleurs variées, tenant dans sa main droite une trompette et dans sa main gauche un masque. Ripa ne le dit qu'à demi-mot. Les Tziganes incarnent pour lui la bigarrure, le métissage. Ils sont pourvus de ce pouvoir mimétique propre aux duplicitaires. Citons encore le registre des simulacres, dont le registre des simulacres certains proverbes attestés autour de 1612 par le vocabulario degli accademici della Crusca. Reale come un zingaro, en français on dirait loyal comme un meunier, oxymore qui en dit long sur la dissimulation tzigane. Callot n'était pas sans connaître la Tzigana, où il est question justement encore et toujours d'un enfant volé, enlevé par une tzigane. Tzigana, pièce théâtrale de John Carley, faisant partie des intermezzi qui rythmaient en mai 589 le mariage de Ferdinand de Médici avec Christine de Lorraine. Donnée en spectacle, les Tziganes de John Carley parlent avec une des aventures babéliques tous les dialectes, bergamesque, padouan, etc., et toutes les langues, italien, grec, arabe, hébreu. Protéiforme, polyglotte, polychrome, polythéiste, y demeure insaisissable. Callot connaissait sans doute aussi la ferveur de ces zingaresques, puisqu'à son arrivée à Florence, il collabora avec Giulio Parigi, intendant des spectacles à la cour de Comte de Médici. Or, le 24 février 1614, ce fut justement una festa d'aballo, en guise de Zingaresca, qui fut représentée devant le duc et sa femme, Marie-Madeleine d'Autriche. Ces signifiantes coïncidences nous permettent de conclure sur une forme de spécularité. Tout comme les tziganes étonnent par leur éclectisme et leur dissimulation, l'homme toscan, mais pas seulement, se plaît et se complaît à contrefaire la tzigane. On en conviendra, nous sommes là dans une dimension méta-théâtrale, typiquement baroque, celle du monde comme représentation. Ce jeu mimétique à double sens cherche par tous les moyens, esthétiques, ludiques, littéraires, à abolir les frontières poreuses entre réalité et fiction, et je dirais entre story et history. La rhétorique baroque est celle de la dichotomie, fantaisie juvénile qui ravive dans les consciences collectives, je cite, la perplexité, le doute, le calembour, l'universelle bivalence. C'est la définition très belle que donne du baroque Alexandru Cioranescu. Parmi les greffes des quatre plaques de Callot, il n'y a pas que la volaille paniquée, il y a aussi plusieurs enfants. En Roumanie, on les appelle puradei. Je me suis amusé à les compter, 42 en tout. Il ne faut pas s'étonner qu'au bout du compte, pour citer le petit texte gravé sur la plaque, ce cycle se ferme sur une ouverture, la naissance d'un 43e enfant. En même temps qu'une éclosion de la vie, cette naissance est une mise en abîme, faisant des bohémiens de Callot non pas une suite, non pas une série, mais bel et bien un cycle. C'est le terme que j'ai d'ailleurs privilégié durant toute cette présentation. L'imbroglio identitaire baroque invite à regarder avec indulgence le mythe de la tziganisation de Callot. En tant que sujet, les tziganes transcendent le temps et tournent en boucle. C'est un vertigineux perpetuum mobile qui laisse la question ouverte d'une history as a never-ending story. Merci de votre attention.
Merci Dominique Alain Olario pour cette très belle communication et nous avoir apporté sur la rencontre de l'enfant et de l'autre comme mythe fondateur de la biographie du graveur et de comment cette image de l'autre anime comme une image fondatrice sa propre œuvre. J'ai à présent le plaisir de présenter Sergiusz Michalski, qui est né à Varsovie, a fait des études d'histoire de l'art en Pologne, a soutenu en 1981 sa dissertation sur la querelle des images en Europe centrale au XVIe siècle et qui, depuis 1984, vit en Allemagne. Il a enseigné dans 12 universités en Europe et en Asie, a soutenu sa thèse d'habilitation sur les relations entre théâtre et peinture en France de 1650 à 1815 à l'Université de Francfort. Et depuis 2001, il est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Tübingen. Parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer ses travaux sur la dispute protestante autour des images, sur la peinture de la nouvelle objectivité, sur les monuments publics entre 1870 et 1997, sur l'art de l'Europe centrale, sur la symbolique des araignées et sur la méthodologie de l'histoire de l'art. Il a en préparation des monographies sur Hans Baldung Green et sur Jacques-Louis David, ainsi qu'une étude sur la symbolique des universités médiévales. Ce soir, il nous parlera de l'Europe des réseaux artistiques et plus précisément de l'étrange phénomène de l'école de Prague. Je lui donne la bienvenue et lui laisse à présent la parole.